Bienvenue dans Libre de lire, l'émission qui parle littérature, présentée par Maëva Feltz. Aujourd'hui, on va parler de trois livres, L'Amie prodigieuse, Vers la beauté et Les Sept Maris d'Evelyn Hugo. Je suis accompagnée de Léo, notre technicien. Bonjour Léo.
Bonjour Maëva.
Comment allez-vous ?
Écoute, ça va très bien. Et toi donc, de quoi veux-tu nous parler plus précisément ?
Alors, je vais commencer par ma dernière lecture, L'Amie prodigieuse, écrite par Elena Ferrante. Alors, Elena Ferrante est une romancière, scénariste et traductrice née le 5 avril 1943 à Naples. Elle est très discrète et utilise le pseudo d'Elena Ferrante pour garder son anonymat. Elle refuse de devenir un personnage public et ne s'est pas présentée aux remises de ses prix. Elle n'accepte pas les invitations télévisées et autres, mais elle autorise seulement de rares interviews écrites. Tout ce que nous savons, c'est que dans ses livres, elle s'inspire de sa vie et d'éléments autobiographiques. Elle a écrit au cours de sa vie 9 livres, dont 5 ont été adaptés au cinéma. Alors aujourd'hui, le livre L'Amie prodigieuse est apparu en 2011 et c'est le premier roman d'une saga de 4 tomes qui se sont écoulés à plus de 1,3 million d'exemplaires. Elle a été notamment adaptée en série, disponible sur Canal+. Donc c'est une saga qui a fait l'objet d'analyses sociologiques, notamment sur la place des femmes dans la société contemporaine. Et Léo, nous vous écoutons pour le résumé de ce livre.
Je ne suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence. C'était la vie, un point c'est tout. Et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en ébullition.
Merci Léo. Alors le livre commence lorsque Rino, le fils de Lila, appelle Elena parce qu'elle a disparu. Elena, elle ne s'inquiète pas vraiment car c'est le tempérament de Lila de disparaître. Elena, elle décide donc d'écrire toute sa vie qu'elle a passée avec Lila depuis qu'elles sont petites. Tout au long du livre, on vit l'enfance et l'adolescence des deux filles à Naples à la fin des années 50. Elles ont une amitié fusionnelle, mais aussi pleine de rivalités. Elles sont très différentes. Lila est fougueuse et courageuse. Elle n'a pas peur de défier ou de menacer. Elena, au contraire, elle est plus douce et réservée. Elle essaye d'être plus forte comme son amie. Cependant, elles sont toutes les deux excellentes à l'école et obtiennent les meilleures notes. Elles ont des rêves et veulent devenir riches afin d'échapper à cette vie. Malheureusement, seule Elena aura la chance de poursuivre les études. Lila n'aura pas cette même chance, même si elle est soutenue par son frère, Rino, devant ses parents. Elle a une forte relation avec son frère, ils sont très proches et se disputent souvent. D'ailleurs, Lila donnera le prénom de son frère à son fils. Donc, par la suite du livre, Lila sera donc obligée d'aider sa mère aux tâches ménagères et de travailler aux côtés de son père à la cordonnerie. Malgré le fait qu'elle soit contrainte d'arrêter l'école, elle continue d'apprendre à travers les cours que reçoit Elena à l'école. Elle apprend plusieurs langues en autonomie et continue de se cultiver en accumulant ses lectures. Elena, quant à elle, continue d'étudier grâce au soutien de sa professeure et pourra même aller au lycée où elle continue d'exceller. Tout au long du livre, leur amitié s'éloigne et se retrouve. Elles restent des amies jusqu'à la fin. Concernant mon avis, j'ai eu du mal à accrocher au début du roman. Il y a beaucoup de familles avec beaucoup de personnages dans le village. C'est dur de se repérer dans les premiers chapitres, mais une fois que j'ai identifié tout le monde, je me suis rapidement attachée à chacun d'eux. Surtout à Elena et Lila. J'aime leur amitié complexe. L'histoire est très addictive. On vit avec elles et on partage leurs mêmes rêves. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Je vais pas trop en dire, mais la fin donne réellement envie de lire le deuxième tome. C'est pourquoi je ne vais pas tarder à aller à la librairie. Au sujet du livre, oui, je le conseille. Il fait 430 pages, mais on les sent pas du tout. Il coûte moins de 9 euros et il est facilement trouvable en librairie. On va passer à un livre un peu plus léger, « Les sept maris d'Evelyn Hugo », écrit par Taylor Jenkins Reid. Et cette autrice est une romancière américaine, elle est diplômée de sociologie. Suite à ses études, elle a écrit 8 livres. Aujourd'hui, on va parler de son 5e livre, sorti en 2017, « Les sept maris d'Evelyn Hugo », traduit en français par Nathalie Guillaume. Ce roman a été nommé pour un « Good Reads Choice Award » pour la meilleure fiction historique en 2017. Il sera sûrement adapté en film par Leslie Headland sur Netflix. Le livre a connu un réel succès sur les réseaux sociaux. En outre-Atlantique, il passera 120 semaines dans le classement des meilleures ventes du New York Times. Et ce, 6 ans après la publication, grâce à l'engouement connu sur les réseaux sociaux. Je laisse Léo nous conter le résumé de ce livre.
À l'aube de ses 24 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés.
Merci Léo, je vais à mon tour vous lire un petit passage. Il n'est pas très long, je vous rassure. Alors, cela m'a toujours fasciné combien les choses peuvent être simultanément vraies et fausses, comment les gens peuvent être bons et mauvais tout à la fois, comment quelqu'un peut vous aimer avec un altruisme admirable tout en servant incapablement ses propres intérêts. Voilà, ça résume à peu près la vie d'Evelyn Hugo dans ce roman. Elle est inspirée par Marilyn Monroe. On retrouve beaucoup de similitudes. C'est une femme très intelligente et exigeante qui a su jouer de ses charmes pour arriver à ses fins. Elle était déterminée à fuir son ancienne vie. Dans ce livre, elle nous révèle tous ses secrets et histoires d'amitié et d'amour aussi. On apprend beaucoup sur le métier d'acteur. Elle nous ouvre les portes de ce monde de cinéma. On découvre qu'elle a beaucoup souffert lors de sa vie avant et pendant sa célébrité. Le personnage de la jeune journaliste Monique est attachant. On suit ses histoires de famille et d'amour. Le journalisme n'est pas un métier facile, mais l'autobiographie de Evelyn est une opportunité pour sa carrière. Alors, chaque chapitre est destiné à chacun des maris d'Evelyn. On apprend leur rencontre et leur séparation. Certains sont plus marquants que d'autres. Tous n'ont pas été invivables avec l'actrice et ont joué un rôle dans le développement de la carrière. Personnellement, la popularité de ce livre n'est pas l'argument pour lequel je l'ai acheté. Ce sont des amis qui me l'ont fortement conseillé. Donc je l'ai acheté. J'étais curieuse de lire cette histoire. L'intrigue est bonne. On se demande pourquoi elle a eu 7 maris et quel est le rapport entre cette personnalité et cette jeune journaliste. Malheureusement, j'étais un peu déçue de la révélation, bien qu'elle ne soit pas prévisible. Cependant, beaucoup de sujets sensibles de l'époque sont évoqués, ce qui permet de prendre conscience de l'évolution de notre société. Par contre, j'ai apprécié l'univers du cinéma et ses secrets. L'écriture est assez simple, la lecture est donc rapide. Mais malheureusement, je trouvais que des passages étaient assez longs. Je le conseille à ceux qui recherchent un livre léger, rapide et facile à lire. Il fait 500 pages et vous pouvez le retrouver en format poche à moins de 9 euros. Pour finir cette émission, on va parler de mon livre préféré de David Foenkinos, Vers la beauté. Alors, David Foenkinos est un écrivain et scénariste. Il a écrit 19 romans et 5 nouvelles. Il a également fait du théâtre et du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de son 15e roman sorti en 2018, Vers la beauté, publié aux éditions Gallimard. C'est celui qui m'a le plus marqué. David Foenkinos a passé plusieurs mois à l'hôpital à ses 16 ans et c'est à cette époque qu'il commence à accumuler les lectures. Il réalise ses études en lettres à la Sorbonne et exerce le jazz dans une école. Il décide ensuite de se tourner vers l'écriture. Et Léo, nous vous écoutons pour le résumé de ce livre.
Antoine Duris est un professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Personne ne comprend cette surprenante reconversion de la part d'un spécialiste de Modigliani. Qu'a-t-il vécu pour fuir ainsi ? Mathilde, la DRH du musée, est décidée à percer son secret.
Merci Léo. Alors dans ce livre, nous vivons les histoires d'Antoine Duris, ancien professeur aux Beaux-Arts. Il décide, sans donner de nouvelles à personne, de partir et devenir gardien au musée d'Orsay. Alors pourquoi cet homme si intelligent et aimé de ses collègues décide de partir ? Au début, nous pensons que c'est à cause de sa rupture avec Louise, son ex avec qui il a vécu 7 ans de sa vie. Mais au fur et à mesure des pages, nous découvrons que ce n'est pas la vraie raison de cette mystérieuse disparition. Cette intrigue nous tient en haleine jusqu'au bout du roman. Alors deux histoires sont mêlées, celle d'Antoine Duris et celle d'une jeune fille nommée Camille. Plus tard dans le roman, on apprend quel est le lien entre cette jeune fille créative qui aime l'art et ce professeur. Dans le livre, on suit les histoires d'amour de ces deux personnages. On apprend que ces histoires sont essentielles au développement de nos deux personnages principaux. Mais surtout, on prend conscience du rôle de l'art dans la vie de chacun. Ce que l'art peut apporter en termes de liberté et d'échappatoire, une manière d'exprimer et de révéler des secrets. J'ai peur d'en dire trop au risque de gâcher la lecture, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, j'ai énormément aimé ce livre. Je ne m'attendais pas à ce lien entre Camille et Antoine Duris. La fin m'a coupé le souffle. L'auteur sait transmettre les émotions. L'auteur dénonce beaucoup de choses dont on ne s'attend pas particulièrement au début du roman. Comme à chacun de ses romans, David Foquinos sait surprendre et révèle des faits de société et raconte la vraie vie à travers ses histoires. Il mérite amplement l'engouement et la reconnaissance qu'il a aujourd'hui. La fin est très émouvante malgré l'horreur du milieu du roman. On baigne dans l'art, on est plongé dans ce monde. L'univers est très bien construit, il est surtout réaliste. L'auteur s'est encore surpassé pour ce roman. On ne se lasse pas de sa plume, je le conseille. Par contre, j'avertis juste qu'il y a des scènes qui peuvent choquer certaines personnes. Donc voilà. Mais vous pouvez le retrouver en librairie à moins de 9 euros. Il est assez court avec 250 pages. Il est très rapide à lire, d'autant plus qu'il est très addictif. C'était Libre de lire, présenté par Maëva Feltz. Merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve la semaine prochaine.